Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette journée d'études donc intitulée La gentrification 2. Un concept hégémonique. Donc c'est une journée d'études en fait qui part d'un double constat, donc qui est dédiée aux études critiques sur la gentrification et qui part d'un double constat. Donc le premier constat, c'est que plus de 50 ans après les réflexions pionnières de Ruth Glass sur la ville de Londres, la notion de gentrification s'est imposée comme une catégorie d'analyse et même comme un sous-champ de recherche majeur des études urbaines. Donc cette notion, la gentrification, constitue le concept principal au moyen duquel ces études analysent les transformations et de la morphologie et du peuplement des quartiers populaires de centre-ville, quartiers qui font l'objet d'une réappropriation résidentielle, matérielle et symbolique par les classes moyennes et supérieures. Toutefois, et c'est le deuxième constat, devant le succès académique de cette notion et la généralisation de ses usages, un nombre croissant de recherches critiques interrogent aujourd'hui à la fois l'unité théorique et la pertinence empirique de ce concept, ainsi que sa place dans l'internationalisation et l'uniformisation des études urbaines. Du coup, ce qu'on peut appeler ces recherches critiques sur la gentrification soulèvent plusieurs questions, plusieurs interrogations. Alors, je vais essayer d'en lister quelques-unes qui structurent la réflexion que l'on trouve dans ces travaux. Donc, la gentrification, par exemple, est-elle la seule catégorie d'analyse qui permet de rendre compte des transformations socio-urbaines des quartiers populaires centraux? Et si oui, comment s'articule-t-elle avec les autres processus qui affectent la morphologie et le peuplement des villes? De même, la notion unique de gentrification ne conduit-elle pas à mettre en équivalence des configurations et des dynamiques urbaines qui sont caractérisées par une très grande hétérogénéité et dont elle tend dès lors à invisibiliser la diversité? Plus précisément, dans quelle mesure cette notion de gentrification tend-elle implicitement à imposer des schèmes théoriques, empiriques et politiques qui sont en vérité tributaires et spécifiques des histoires à la fois académiques et urbaines très spécifiques dans lesquelles elle est née, à savoir celle des métropoles du Royaume-Uni et des États-Unis de la seconde moitié du XXe siècle? Et dès lors, quel lien peut entretenir le succès académique de cette notion avec les rapports de force institutionnels et symboliques qui structurent le champ des études urbaines et qui y régissent la circulation internationale des idées? Voilà.
Cette demi-journée d'études propose de revenir sur ces interrogations grâce aux présentations de plusieurs spécialistes ayant développé donc, une analyse critique de la notion de gentrification. Et donc, nous avons le plaisir de recevoir Thomas Maloutas, professeur de géographie à l'université de Harokopio d'Athènes, ainsi que Marie Charbol, maîtresse de conférence en géographie à l'université de Picardie-Jules Verne. Anaïs Collet, maîtresse de conférence en sociologie à l'Université de Strasbourg, et Ovicter Minassian, maître de conférence en géographie à l'Université François Rabelais de Tours. Donc, avant de commencer les interventions, quelques mots sur nos intervenants. Donc, Thomas Maloutas est donc géographe. Il a fait sa thèse ici, à Nanterre, il y a quelques années, et il travaille depuis presque 30 ans maintenant sur la ségrégation socio-spatiale, sur les inégalités sociales et leur impact sur la morphologie de la ville. Et donc cela fait plusieurs années qu'à partir de nombreux travaux empiriques, Thomas Maloutas appelle à réévaluer la portée globale des théories macro-sociologiques sur la polarisation socio-spatiale, dont celle notamment de Saskia Sassen sur la ville globale, qui prône que la dérégulation économique conduit à une polarisation sociale et une ségrégation spatiale accrue dans les grandes villes. Et Thomas Maloutas montre à partir du cas d'Athènes, notamment dans des articles qu'on publiait dans Actes de la recherche en sciences sociales et dans l'International Journal of Urban and Regional Research, qu'il peut en fait avoir une augmentation de la polarisation socio-spatiale. Qui peut en fait avoir une croissance des inégalités sociales sans qu'il y ait celle-ci soit nécessairement accompagnée d'une augmentation de cette polarisation socio-spatiale. Donc à Athènes, c'est d'ailleurs l'effet inverse qui se produit avec une réduction de la ségrégation à partir des années 1990. Thomas Maloutas plaide ainsi pour une recontextualisation des théories sur la ségrégation, notamment dans un livre collectif co-dirigé avec Kuniko Fujita, Residential Segregation Around the World, Why Context Matters, basé sur l'étude de 11 villes. L'ouvrage montre la spécificité de chacune et leur implication sur les théories de la globalisation et donc de la polarisation spatiale. Et de cette manière, ces travaux font écho à ceux de Jean-Claude Chamboredon et Madeleine Lemaire, et de ceux qui s'inscrivent dans la lignée des sociologues pour qui la proximité spatiale n'équivaut pas proximité sociale. Pour Thomas Malthus, distance sociale et distance spatiale ne vont pas de pair dans toutes les villes du monde. Et son approche l'amène donc à être plutôt sceptique vis-à-vis du concept de gentrification, qu'il qualifie dans son dernier article paru dans la revue European Urban and Regional Studies de concept voyageur, trop lié à un contexte donc anglo-saxon. Et il nous expliquera aujourd'hui pourquoi il le considère ainsi.
Et donc, après une courte pause, nous écouterons nos seconds intervenants, donc Marie Chabrol, Anaïs Collet et Ovic Termination, donc qui sont co-auteurs avec Mathieu Giroux, Lydie Launay et Max Rousseau de Gentrification, au pluriel, donc qui est paru en 2016 aux éditions Amsterdam. Donc je vais dire rapidement quelques mots sur chacun des auteurs présents ici. Donc Marie Chabrol, elle est géographe, elle est maîtresse de conférences à l'Université Picardie-Jules Verne et elle est membre du laboratoire Habiter le Monde. Donc ses recherches portent sur les transformations contemporaines des quartiers populaires et immigrés à Paris et à Bruxelles, et en se focalisant notamment sur l'étude des pratiques quotidiennes des habitants. Et donc elle a publié plusieurs articles sur la dimension commerciale de la gentrification et sur le maintien des commerces immigrés et de populations vulnérables en contexte de gentrification. Donc je me réfère par exemple à un article paru en 2014 dans la revue Homme Immigration qui s'appelle « Évolution récente des quartiers d'immigration à Paris, l'exemple du quartier africain de Château-Rouge » ou encore un ouvrage co-dirigé avec Alexandra Monod, Franck Paris et Fabien Paulus, « La France des marges » qui est paru en 2016. Anaïs Collet, seconde intervenante de ce second moment de la journée d'études. Donc, elle est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Strasbourg. Elle est membre du laboratoire SAGE. Et donc, elle travaille sur la gentrification en petite couronne parisienne et à Lyon, et sur la transformation des classes moyennes et la place des enfants dans la ville plus généralement. Donc, elle a notamment publié en 2015 l'ouvrage qui est paru à la découverte « Rester bourgeois, les quartiers populaires, nouveau chantier de la distinction », qui est donc issu de sa thèse qui propose une sociologie comparée de la gentrification à Montreuil et dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Et enfin, si j'arrive à tourner la page, j'y arrive. Ovic Termination, qui est maître de conf en géographie à l'Université François Rabelais de Tours, et donc qui a plusieurs domaines de spécialité, la gentrification, notamment en articulant les questions de politique patrimoniale et de politique de réhabilitation à Barcelone, et aussi un autre domaine de spécialité, les jeux vidéo. Voilà. Donc, qui a publié notamment en 2010 dans la revue Espace et Société un article intitulé « La réhabilitation du centre ancien de Barcelone, deux points, discours et représentation par les pouvoirs publics, 1980-2008 ». Ou plus récemment, dans les annales de géographie en 2016, un article intitulé « Space Invaders », en référence aux jeux vidéo classiques, deux points, les pratiques du jeu vidéo dans les espaces domestiques. Donc ces trois auteurs nous présenteront rapidement les grandes lignes de ce livre collectif et interdisciplinaire qui est « Gentrification au pluriel ». Et qui, pour en dire rapidement un mot, un livre qui propose en fait de rompre avec une vision uniforme et mécaniste des processus de gentrification. Donc c'est cette vision, par exemple, qu'on retrouve dans les travaux qui développent des stage models, des modèles par étapes de gentrification qui concernent tout un pan de la recherche sur cet objet. Et donc de rompre avec cette vision mécaniste et uniforme du processus et d'envisager donc la gentrification au pluriel, en se montrant attentif aux variations contextuelles, ainsi qu'à la diversité et à la réversibilité des logiques auxquelles répond ce rapport social et inégalitaire d'appropriation de l'espace. Donc voilà. Donc je vais donner.
Oui. Juste un dernier mot. Thomas va faire son intervention en anglais, mais les questions peuvent être en français si.
Oui. Oui, d'accord. C'est un papier que j'ai publié l'année dernière en anglais. Et la présentation était prête en anglais et je n'avais pas le temps de la faire traduire proprement en français. Mais on pourra discuter en anglais et en français après. This talk comes from a lifelong experience doing research with borrowed concepts and theories. At first, this does not sound strange. As it is usual, it's the usual way research is performed by most of us, who only marginally, if at all, contribute to devising new concepts and theories. However, for those who work outside the core of the academic division of labor, the issue is not only about working with borrowed concepts and theories, but also borrowing these tools and using them in contexts that are different from those in which they were initially developed. In principle, concepts and theories are made to travel. The process of abstraction through which they are constituted involves focusing each time on what is considered essential. This enables comparison and generalization that eventually leads to overcoming contextual barriers. However, not all concepts and theories can travel with the same ease. Those that are highly abstract are in general more suitable for traveling, while those at a lower level of abstraction are usually more closely tied to specific contextual parameters. I will briefly discuss three general issues related to traveling concepts and then examine gentrification in this light. The first general issue is the specificity of space-related concepts and theories. Abstraction is a process that enables traveling since it is a process of decontextualization. However, in disciplines examining spatial processes, most of the time the content of spatiality cannot be relevantly reduced to a geometrical or other form of abstract spatial dimension. Some 30 years ago, Andrew Sayer commented extensively on the difficulty of producing meaningful theoretical constructs for geography at high levels of abstraction. It is nevertheless clear that throughout the history of disciplines concerned with the spatiality of social life, several concepts and theoretical constructs have burst beyond their initial contextual limits and have been tried in or imposed on different contextual realities through a process that I name halfway decontextualization. By this term, I refer to processes of abstraction and theory building that lead to concepts and theoretical geographic and socioeconomic contexts in which they were born. I repeat that because it didn't make sense. So by the term halfway decontextualization, I refer to processes of abstraction and theory building that lead to concepts and theoretical constructs that are only seemingly disentangled from the specific geographic and socioeconomic context in which they were born. A line was missing, and when a line is missing, usually it doesn't make sense. The problem of this halfway decontextualization emerges when these concepts are not sufficiently abstract and these theories are not sufficiently general, but are treated as if they were. The second general issue is the meaning of context. Context is not something fixed and permanent. Its content is related each time to the issue at hand. In practical research terms, context could be assumed to be the interrelated assortment of specific parameters in a local setting that may lead a particular process to produce importantly different outcomes from those theoretically expected. In a book I co-edited with Kuniko Fujita 5 years ago that you mentioned about the importance of contextual diversity in spatial patterning and the social impact of residential segregation, we defined as major contextual parameters the ways that the market, the state, and civil society are imbricated in each setting, as well as the specific and durable shapes of local socio-spatial realities involving built environments and social relations inscribed in property patterns, urban histories, and ideologies. On this basis, we could assume that inadequate abstraction in the process of theorizing and lack of contextual awareness are responsible for problems in the traveling of concepts and theories. However, matters are also a bit more complex, and this is mainly because concepts and theories travel in an uneven world. This brings me to the third and last general issue I want to discuss today. Concepts and theories do not travel in every possible direction and in random ways. They systematically travel much more frequently from core to peripheral regions, and in so doing, they become part of the mechanisms and power relations that reproduce geographic unevenness, not only in the academic division of labor, but also in all aspects of socioeconomic life. The power relations on which this uneven concept traveling is founded relate to the uneven geographical distribution of academic organizations and resources, to the primacy of English as a publishing language, and the homogenized prerequisites from academic careers around the world increasingly being so. It is very difficult to escape the reproduction of these power relations, even when we are producing radical theory. Concepts and theories that travel are, to a large extent, agendas imposed on the periphery independently of their content. We can claim that theory is usually a gaze from the core, and it has been part of the colonial, imperialist, or otherwise dominant way of understanding, giving meaning to, and conquering the periphery. Let me turn now to gentrification, the main issue of this talk. My claim here is that theoretical propositions and concepts in human geography and urban studies are usually bound to remain context-dependent. Segregation and gentrification are not highly abstract constructs like capital or surplus value, and their assumed universal relevance, which derives from their unduly simple definitions, does not rid them of their indelible contextual attachments. Discussing the concept of gentrification, I want to bring to the fore the way its contextual origins, which are usually left aside or forgotten, act as a kind of deforming lens when they are focused on different contextual settings. Gentrification is a process of segregation in the sense that eventually it leads to more segregation, even though it's in first stages, it increases the social mix in working class areas where incoming middle class households displace lower social strata. Even though following Zukin, in terms of numbers of people and neighborhoods, it is a smaller and arguably less significant issue than deepening urban poverty, continued racial segregation, and cumulative disadvantage. It has attracted a lot of attention since it has changed the look and feel of many neighborhoods and created an archetype for urban renewal. This attention has been hugely amplified by the fact that gentrification has mainly emerged in core metropolises of the Anglophone world. Some years ago, in a paper published in Critical Sociology on the contextual limits of gentrification, I argued against the supposedly intercontextual reach of gentrification proposed by the new gentrification research agenda. My main argument was that gentrification is a concept highly dependent on contextual causality, and its universal use does not remove its contextual attachment to the Anglo-American metropolis. In fact, its universal use eventually dissimulates these attachments. My second argument was that looking for gentrification in increasingly varied contexts displaces emphasis from causal mechanisms to outcome similarities and dissimilarities across contexts, leading to a loss of analytical rigor. And my third argument was about the ideological and political impact of equating all the different forms of urban renewal with gentrification, which projects gentrification's neoliberal frame of reference on the various geographical and historical contexts where urban renewal has been taking place. Several authors who used that paper were critical of my arguments. Most of them mainly claim that I unduly limit the range of gentrification by linking it too tightly to the original Anglo-American context. Two of these papers, an article by David Lay and Theo in IJOR in 2014, and the introduction to the volume Global Gentrification by Lees, Sheen, and Lopez Morales, have been quite elaborate in criticizing my views. This led me to reformulate and expand some of my initial ideas and publish them in this paper I'm talking about. I summarize my response to these critical comments in the three issues that I will discuss in the following. The first issue is the definition of gentrification, and specifically how, by adopting different definitions, we may be led to different answers with respect to the concept's global reach. If, for instance, we adopt Clark's simple definition of gentrification as a neighborhood's inflow of higher status groups and outflow of lower status groups linked to a considerable reinvestment of fixed capital, this literally leads us to accept gentrification's global reach by definition. The second issue is the way we understand and term contextual boundaries. If we use extremely broad and therefore ill-defined categories to contextually differentiate gentrification sites, such as the metropolis of the global south versus the metropolis of the global north, or the metropolis, the western metropolis versus the non-western metropolis, we lose grasp of a meaningful part of what contextual difference is about. The third issue is the reification of cultural differences, which may lead to using such differences to explain attitudes towards gentrification, even though those same attitudes could be explained by more prosaic socioeconomic motives compatible with Western rationalism. Let me briefly discuss each one of these three issues. The simple definition of gentrification formulated by Clark guarantees a priori, as I said, the global reach of gentrification, since the only thing needed is a change in the area's population due to the inflow of higher status groups and the outflow of lower status groups associated with reinvestment of fixed capital. Clark's simple definition of gentrification follows or drives the main tendency in the gentrification literature, which is to bring everything together and devise a large number of variants like studentification or super gentrification or touristification within this large heterogeneous whole. The important question, therefore, is not whether we can find phenomena that conform to these new conditions across the urban world, but whether the many different phenomena that we can bring under the same umbrella constitute a meaningful whole. Appraising this tendency to contain every form of urban renewal in the gentrification literature and research agenda, I claim that gentrification increasingly becomes a mere keyword for its fuzzy and ambivalent content, rather than an articulated account of the underlying socioeconomic and political mechanisms and processes that produce it. Similarities and regularities of outcomes of urban renewal overtake the importance of its underlying processes, and since such similarities can be eclectically found almost everywhere across the urban world, some consider this sufficient proof of gentrification's global reach. Through this path, we are led to the theoretical banality, in my view, that within our unequal capitalist societies, groups with more resources will appropriate residential and other locations formerly occupied by less affluent groups, if there is new investment that upgrades the value of those locations, and if processes of place allocation are sufficiently commodified so that the shifting and sorting can be enabled. My argument is that gentrification is a mid-range concept and not a highly abstract construct like capital, surplus value, or the working class. And the effort to simplify its definition and broaden its applicability will not transform it into such a construct due, again, to its indelible contextual attachments. These contextual attachments go beyond the requirements of the simple definition of gentrification. They relate to urban histories that may have produced gentrifiable urban areas and building stocks, as well as to broad sociopolitical traditions and arrangements that affect the shape of urban restructuring initiatives, their agents, and their actual outcomes. I use context mainly as a reminder that expected outcomes deriving from theoretical claims are often contradicted by outcomes whose understanding entails taking into account contingencies not included in theoretical models. Concepts and theories are always context dependent, and the degree of this dependency varies in relation to their specific object. Gentrification is a context dependent in the sense that its patterns and social impacts are determined by the combined effect of mechanisms and institutions involving the market, the state, and civil society, as I said before, and the specific and durable shape of local socio-spatial realities. This definitional issue can lead to a never-ending discussion of the appropriate limits of abstraction that concepts such as gentrification can or should reach. The answer is not obvious. The more we simplify the definition of gentrification, the more we ascribe a dominant, determining, and disciplining role to global economic forces, and the less space we leave for other factors like political rapport de force and arrangements that may facilitate, mitigate, or even oppose the expected impact of global forces. On the other hand, the answer depends on the scope of analysis each time at hand. The narrower the scope, for example, designing public policy to monitor urban renewal projects in a particular area of a city's downtown, the more the concept becomes either too general or misleading, requiring it to be used with context awareness in order to become a bit more relevant. Following Atkinson, we have tended to label too many kinds of neighborhood change as gentrification, and this elasticity has reduced the bite of critical studies of its localized appearance and has diminished policymaker interest as a result. An encouraging development in this matter is the work of several scholars investigating gentrification-like processes in Latin American cities. I won't name them. These scholars focus on configurations of socio-spatial change in these cities that are significantly related to contextual causality, for example, the critical function of public institutions that is not part of the agent-led gentrification model, the importance of appropriating cultural heritage to dominate space, or the encroachment of informality through increased commodification of urban structures and practices in order to assess the impact of specific gentrification-like processes on issues such as the social profile and the form of displacement, or the active or passive role of middle-class gentrifiers. In this sense, their work has become analytically and politically more relevant. Similar attention to contextual causality is paid by Franz and Tori in a recent volume on unequal cities in Europe, in six European cities. With very diverse outcomes depending on factors such as the combined effects of the structure and trend of their socio-demographic profiles, their policy orientations, and the impact of the crisis on them. Similar kind of work is produced by people in this room, Sylvie, and the book we will be talking about later, I believe, are within this non-dogmatic understanding of gentrification as a sequential and inescapable destination of urban renewal. So the choice is ultimately between an unduly generalized concept that should be used with caution. This means with context awareness, and a series of related but different concepts describing processes of urban renewal in more contextually specific forms. Today, discussion of this choice is a bit futile. Since the term gentrification has already been widely adopted as a synonym for any form of reshaping downtown areas, precluding the other options. The benefits of this lie in bringing different processes of urban renewal together in the same global discussion. The disadvantages lie in the implicit contextual attachments that I mentioned before. That is, the dissimulated differences that relate to the path dependence of processes and to the changing dynamics of power relations among social and political actors involved across different types of these processes. This dissimulation usually works at the expense of processes that are analytically more distant from the core of the academic division of labor, as they tend to be read through the core's experience, which coincides to a large extent with the experience of the Anglophone urban world. My conclusion on this issue remains more or less the same as it was 5 years ago. Since we can no longer escape this concept because it has acquired a substance of its own, transgressed the limits of academia, and has become a sociopolitical issue and a stake in itself, at least in some important countries, we should constantly challenge it by revealing and recalling its implicit contextual assumptions and comparing them each time with the contextual realities of the analysis we have at hand. This is mainly a task that researchers outside the Anglo-American core should carry out, even though researchers within that core would have plenty to gain from an increased awareness of the contextual limits of the tools they have produced. The second issue about gentrification that I want to discuss concerns contextual boundaries. The argument I defended about the importance of contextual attachments demands a relatively subtle delimitation of the diverse contexts of gentrification. For that reason, I described certain relevant features of the metropolises of the Anglophone world related to the particular path of urban history followed by the most prominent of these cities as they became industrialized. I insisted mainly, following Fishman's bourgeois utopias, on the choice of the elites of these cities to abandon the center to growing industrial activities and the working class. More than a century later, these cities were rapidly deindustrialized, and large areas near their centers became favorable settings for a back-to-the-city movement, literally by capital and to some extent metaphorically by the middle classes, stimulated by the creation of large rent gaps, according to Neil Smith. The centers of major cities of the Anglophone world became favorable settings for gentrification, not only because they offered abundant gentrifiable space, but also because this was combined with neoliberal regulation, resulting in direct pro-gentrification policies of urban renewal and the increased commodification of housing, which happened at the same time. This favorable setting was not present in most other metropolises of the world, as, for example, in Paris, where the elite never quit the center, or in Vienna, where the specific weight of public housing still remains overwhelming and thus reduces the margins and the impact, the possible impact of gentrification. By not defining contextual diversity in precise terms that may be important for understanding gentrification, several authors, and I include my critics preferably here, reduce contextual diversity to the very broad differences between cities of the global north and the global south, or between Western and non-Western cities. The two poles, in this case, are only intuitively mentioned as vague contextual opposites, and this puts many in-between regions, such as Southern Europe in the first case, or Japan and South Korea in the second, uneasily in either part of the dichotomy. On the contrary, if we follow Bourdieu and Vacon in their 1999 paper on cultural imperialism, we can obtain a better grasp of contextual difference and can argue that the implicitness of contextual attachments is not the product of some random and inconsequential process. They forcefully stressed that it is the effect of cultural imperialism that rests on the power to universalize particularisms linked to a singular historical tradition, causing them to be misrecognized as such. The main issue they discussed, race, underclass, and a few others, related to the ways concepts and theories travel. In their discussion, it was traveling between the US and France, and eventually impose meanings generated or acquired in the US as universal. Context, in the way I understand it, regarding gentrification, makes a difference both in terms of the path dependency that influences the formation of the built environment, the physical setting of potential gentrification processes, and the profile of sociopolitical arrangements that either energetically shape urban processes or remain idle and contribute their shape in a more passive way. If this more explicit meaning of context is not taken into account, a contextually biased vision is implicitly adopted. This vision is closer to the market-dominated context of the Anglo-American metropolis and assumes an ever-growing urban restructuring on the gentrification mode, at least until it reaches its social and political limits. This vision, however, is exaggerated even in the Anglo-American context. Following Zukin, there are failed examples of gentrification to change neighborhoods' reputation, or it may take a very long time for them to do so. What really makes gentrification possible is a convergence towards geographically targeted investment on the part of private capital and public policymakers. This convergence is more difficult in contexts less imbued by and more resistant to economic liberalism. Therefore, when context matters for gentrification, or to put it another way, whether gentrification is a global process may be answered differently depending on how we define both. The crude contextual divide for gentrification mentioned earlier brings me to the last issue I want to discuss. By using the global north, global south, or the western, non-western city divide in reference to contextual diversity, we run the risk of identifying eclectically and arbitrarily some of their distinctive features and of reifying and essentializing their assumed importance for gentrification. One way that this crude divide may blur the analysis of gentrification-like processes is by obliterating different sociopolitical arrangements within the global north or western part of the divide, which is crucial because, as I argued earlier, it facilitates equating urban renewal with the mainstream understanding of gentrification. To discuss this issue, I examined the main argument in the Lay and Teo paper about gentrification in Hong Kong. Their main objective is to analyze why they considered it to be a paradox about Hong Kong. This paradox about Hong Kong is that although gentrification is increasingly present in urban renewal processes, the term is barely used in academic or political or media discourses. Their main idea is that positive cultural and ideological predispositions to urban renewal related to the rise of home ownership and social mobility have acted as a glorifying smokescreen, concealing the highly unequal social impact of the building sector. This situation began to change when mass-related analyses originating in the gentrification literature started dissipating this smokescreen. I can understand and accept this reasoning, especially the part differentiating the impact of former processes involving high rates of home ownership and increased social mobility versus more recent negative developments in the local land and housing market that increased spatial inequality in a city where income inequality was already very high and one of the highest in the world. However, I would hesitate to link this change primarily to dissipated cultural barriers and ideological predispositions. I would rather emphasize the material conditions that changed considerably over the years and eventually brought the effective social outcome of local urban renewal processes closer to gentrification and to its negative reputation in those regions of the world where it was academically and politically identified much earlier. Lay and Teo offer plenty of evidence of the advantages that Hong Kong residents could obtain in the past from urban renewal processes, namely, they could access better social housing or access home ownership. These were real advantages that enabled social mobility, and urban renewal did not need some unwarranted cultural or ideological predisposition to become popular. On the contrary, it was these real advantages that created such positive predispositions. There is... how long have I been talking?
You're talking? Huh? 40 minutes.
I need another 5. You are not exasperated. No. There is no question that whatever sociopolitical arrangements were established in developmental capitalist societies in East Asia, in welfare state societies in Western and Northern Europe, or in populist clientelist regimes in Southern Europe or Latin America, the overall outcome of urban restructuring was usually to the benefit of hegemonic classes. However, the more equilibrated sociopolitical rapport de force in welfare states provided considerable shelter against gentrification-like processes by better protecting former residents or by aiming to prevent the social mix in upwardly mobile neighborhoods by other means. The same can be argued about developmental capitalist societies that produced similar social effects in a more indirect way by privileging national objectives that needed some degree of social redistribution to be accepted as such, as national objectives and shared by everyone. In Southern Europe, post-war authoritarian regimes were compelled to make concessions in order to strengthen their political power. These concessions were usually of the clientelist populist mode and involved housing mainly by providing socially diffused access to home ownership and hence to social mobility through home ownership, thus creating all sorts of barriers to gentrification when interest in urban renewal emerged in the cities of this region some decades later. What is important, therefore, in many cities outside the Anglophone world is not to learn how to read class relations in processes of urban restructuring. In many of those cities, there is a long history of class struggles and class analysis related to space. France is one of the most important cases. But to realize that the new processes emerging under increasingly neoliberal policy orientations are regressive compared with previous arrangements, especially since they tend to exclude political alternatives in terms of neoliberal economic rationality. The metamorphosis of gentrification through its different waves and shapes in the Anglophone world are not a script that should be imposed in order to understand other cities' urban histories and to make sense in class terms of their urban restructuring processes. Today, when neoliberal policies have increased inequalities to a level that even experts of the International Monetary Fund consider untenable for future growth, when neoliberal capitalist globalization have proven insufficient and often harmful in regulating conflicts, when the European Union, this belated ardent convert to neoliberalism, is having trouble pursuing austerity policies, dealing with the new refugee and migrant waves, containing the expansion of the extreme right, and ultimately surviving within the new geopolitical landscape, it may be justified to consider whether neoliberal regulation is becoming increasingly shaky at the same time it is becoming increasingly aggressive. And it looks a bit odd to turn for analytical and even more for political inspiration to the urban history of a part of the world where political resistance to the growth of neoliberal policies was obliterated earliest. The Anglo-American world may have been a pioneering laboratory in the application of such policies, but other parts of the world have shown a more effective resistance, sometimes as an unintended consequence of specific contextual factors that could be an asset in future struggles and sociopolitical arrangements and compromises, making a difference in people's lives until the day when social justice is no longer an issue. I have not been advised when this day will come. Probably it will not become very be coming very shortly, but we should be optimistic that one day it will come. Thank you. Merci.
Bonjour. Juste donc pour lancer les questions, c'est un peu anecdotique, mais vous racontez un peu dans l'article les échanges que vous avez pu avoir avec les collègues anglo-saxons. Est-ce que depuis la parution de ce texte, vous avez eu d'autres échanges? Est-ce que vous savez comment le papier est reçu et qu'est-ce qu'ils répondent et comment? Est-ce que ça les intéresse?
Et j'étais tenté de dire que on m'a coupé le. Non, c'est pas vrai. Il y a un certain intérêt, mais il y a eu un intérêt pour l'article précédent. Et peut-être pour celui-ci. C'est un peu tôt, parce qu'il a paru en été dernier, donc c'est un peu récent. Et mes amis anglo-saxons sont très, très en faveur, mais ils sont mes amis. Et donc je ne peux pas... par exemple, avec Loretta Lys, qu'on ne se connaissait pas, et on s'est connu l'année dernière. Et avec López Morales, que j'ai visité il y a quelques mois, et on a compris qu'on n'était pas dans les tranches ennemies. Et c'est un peu, c'était pour moi une révélation, parce que on peut, avec des gens qu'on ne connaît pas, et dans cette compétition idiote à travers les journaux, où celui qui dit des méchancetés plus intelligentes envers l'autre se place un peu. Et quand on se trouve dans le même séminaire, on voit qu'on a beaucoup plus de choses qui sont compatibles que l'introduction au bouquin Global Gentrifications était au moins impolie. Mais j'ai fait ma... Comment dire j'ai négligé ça. Maintenant, on n'est pas amis, mais on peut demeurer dans le même... la même planète. Et je pense que avoir une certaine... politesse, je disais, mais un autre mot serait plus propice. C'est plus fécond pour le débat. Les confrontations qui sont un peu dans l'esprit anglo-saxon où mon excellence doit se surgir sur tes lacunes. Mais je ne dis pas qu'on doit revenir aux révérences, mais bon, c'est. C'est une très longue réponse. Je pourrais dire oui.
Non, mais parce que j'ai, à titre personnel, j'ai pas beaucoup navigué encore dans le monde anglo-saxon avec nos travaux. Mais j'ai eu une occasion, quand on s'est croisés à Leeds, donc une conférence organisée par l'ISA, l'International Sociological Association, donc j'ai vu un petit peu, et ma première découverte, c'était juste de lire le programme et de voir que un quart ou un tiers des sessions de l'ensemble du réseau portaient le mot gentrification. Alors que c'était voilà, une conférence sur Urban Studies. Donc j'étais un peu étonnée de... que ça recouvre autant de problématiques, de cas, d'espace, de tout. Oui, en fait.
Je veux dire un mot sur ça. Et quand je vais commenter un peu sur le livre, si je le dis maintenant, je le brûle. Je n'aurai pas...
Merci. Oui, moi j'avais trois questions, mais je ne sais pas si... Enfin, en tout cas, la première, c'était dans le papier, et puis là, dans votre intervention, vous dites souvent anglo-américain, comme un contexte ou un impérialisme culturel. Est-ce que, du coup, il y a des distinctions quand même entre anglo et américain? C'est-à-dire, est-ce que les... Enfin, c'est une intuition, mais je ne sais pas si je me trompe ou pas, que les approches du côté des Britanniques et aussi les villes britanniques sont quand même... assez différente du contexte états-unien. Et du coup, comment vous lisez ça, vous, la différence entre... Ou est-ce qu'il y en a une ou pas? C'est la première question. La deuxième question, c'était tout ce que vous dites sur l'indexation tellement forte, en fait, à des contextes locaux du concept est une limite à ses possibilités de voyage, etc. Est-ce qu'on peut généraliser? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres concepts, en fait... j'ai presque envie de dire de la géographie. Enfin, est-ce que tout concept de la géographie ou qui inclut une dimension spatiale se retrouve confronté aux mêmes difficultés? Donc pas simplement celui de gentrification, mais à partir du moment où c'est forgé en rapport avec une question spatiale, est-ce que du coup ça ne peut plus être ou ça voilà? Et pourquoi d'autres concepts ça, peut-être que c'est pas le cas. Et la dernière question, qui est peut-être plus une question de curiosité ou de ce que vous l'évoquez là, et je connais pas du tout, donc peut-être que vous connaissez mieux, vous avez évoqué le cas des villes japonaises, en fait, qui avaient une particularité, mais je sais pas laquelle, du coup, et j'avais l'impression, pour avoir lu des papiers, très rapidement, qu'il y avait un espèce de mystère de « il n'y a pas de gentrification dans les villes japonaises ». Enfin, j'ai l'impression d'avoir lu au moins, je sais pas combien de papiers qui disaient ça, de pas très bien avoir compris pourquoi, et du coup,
il y a d'autres qui disent qu'il y a.
Bon, voilà. Donc, du coup, si vous avez quelques éléments sur ce cas-là un peu particulier que je maîtrise pas et que...
Première question. Oui, vous avez tout à fait raison. Et anglo-américain, c'est un peu, on met tout. Et il y a des différences importantes sur la structure des villes, sur un nombre de paramètres. Et en plus, il y a des différences à l'intérieur des pays. Toutes les villes ne sont pas les mêmes. Boston, que Sylvie Tissot a travaillé sur, c'est pas la même chose que Los Angeles. Mais pour mon propos, et il faudrait mettre la barrière à un certain niveau. Et là, c'est la littérature sur la gentrification anglo-américaine qui a certaines... qui a une certaine, disons, homogénéité, c'est pas vrai, mais qu'il y a une certaine tendance dominante. Et une histoire de la découverte du concept qui commence par Londres et se développe beaucoup plus de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc cette question est très liée avec la seconde, avec l'indexation. Et c'est ce que je défends dans ce papier, c'est que à chaque fois, il faut voir, et par rapport au concept ou à la question où on traite, le niveau d'abstraction auquel on doit se placer pour être plus efficace et par rapport à ce qu'on veut faire. Et si on veut esquisser les grandes lignes des processus dominants, peut-être qu'une définition de la gentrification un peu décontextualisée est suffisante. Mais si on veut être politiquement intéressant pour le centre de Lyon, là, on ne peut pas travailler avec ça. On doit mettre dans le concept des paramètres qui le font plus propice à demander la quête sur les causalités locales. Et pour l'article que j'ai publié en 2012, et j'étais attaqué pour négation de la théorie. Et cet article avait été rejeté par deux revues, et c'était la troisième qu'il a. Si vous baladez dans le monde anglo-saxon, il y a des coups que vous recevrez partout. C'est pas tout le monde. Seulement, on est poli, on le dit pas. Mais ce n'est pas une négation de la théorie. C'est mettre vos propositions théoriques et vos concepts au niveau propice pour ce que vous voulez faire. Et pour le Japon, je ne suis pas un spécialiste, pas du tout. Mais c'est si vous prenez l'exemple de la ville qui a été un peu épargnée par les bombardements, Kyoto, qui a un tissu gentrifiable à nos yeux, les gentrifieurs et sont logés dans les nouvelles constructions. C'est un autre type de processus. Mais là encore, je n'ai pas de littérature qui met le point vraiment. Il y a positions opposées, il y a ou il n'y a pas de la gentrification, mais...
Bonjour. Ma question est simple, peut-être qu'elle s'adresse un peu à tout le monde. Est-ce qu'on peut dire que le concept de gentrification est un concept écran, comme on a pu le dire pour la globalisation? Et dans ce cas, c'est-à-dire écran, c'est-à-dire qu'il nous empêche de penser véritablement des processus en cours ou dans le passé, oui. Hein, aussi bien. Mais si c'est le cas, alors vers quel concept doit-on s'orienter méthodologiquement parlant, hein, ouais, pour être efficace dans notre, évidemment, dans les ouais, analyses.
Question simple, réponse impossible.
Oui.
Oui, c'est un concept écran parmi d'autres choses. Surtout, à mon avis, surtout parce que il a une envergure et dont le contenu est assez élastique. Et en plus, parce qu'il a des attaches à des contextes précis qui ne sont pas immédiatement, qui ne sont pas immédiatement lisibles par sa définition stricte. Et le deuxième volet, c'était vers quel... il n'y a pas d'autre. C'est irremplaçable. Au point qu'on est, et tout le monde parle de la gentrification. Donc, on doit travailler avec ça. La ségrégation, c'était pas très bonne non plus comme, comme terme. Ça Donc, il faut déconstruire, mais de l'intérieur. C'est comme les partis de gauche où on s'infiltrait.
Donc, il faut faire de l'entrisme au sein du
champ. Si on produit un autre terme, même si c'est très, très clair, si c'était très clair, il est condamné. Parce que pour avoir un succès dans l'emploi des termes, il faut qu'il soit un peu ambigu et que beaucoup de groupes de gens, etc., comprennent différentes choses qui mettent sous le même chapeau. Si on est très clair, il y aura... quelques-uns dans une salle comme ça, 25 personnes, voilà, qui diront oui, vraiment, c'est bon. Mais ça sera tout.
Il y a deux questions, je propose qu'on...
Oui, bonjour, David Mathieu Escobar, Centre Max Weber, Université Lyon 2. Un peu dans le prolongement de la question précédente, je découvre votre article de 2012, notamment à travers la lecture du livre dont il sera, dont on discutera par la suite. Et donc je note qu'il y a deux références à cet article-là. Observer la gentrification dans une variété de contextes contribue à passer de la recherche de casualité et des processus à l'identification d'effets similaires à travers les contextes, ce qui conduit à l'évidence à une perte de rigueur analytique. Ça, c'est la première. Oui, oui. Et la deuxième, qui dit « La façon dont la gentrification se mue en un concept qui englobe presque toutes les formes de renouvellement urbain se fait au détriment de l'analyse, tout particulièrement... quand elle concerne, excusez-moi, des contextes différents de ceux dans ou pour lesquels le concept a été conçu. » Et les auteurs vous rejoignent en partie sur vos analyses et votre positionnement, à la critique que vous formulez, mais d'autre part, ils doutent quant au scepticisme dont vous semblez faire preuve à propos de l'intérêt d'étudier la gentrification en multipliant les cas d'études. Dans tous les cas, c'est comme ça que je l'ai lu. Ma question est donc, est-ce que vous êtes, si c'est le cas, sceptique quant à l'étude de la gentrification dans des contextes multiples, ou bien, plutôt comme je l'ai compris de ces deux citations, est-ce que vous êtes plutôt sceptique à l'utilisation de la notion ou du concept de gentrification comme un prisme interprétatif a priori ? Et bon, ça, c'est ça ma question. Oui.
Ce que je trouve intéressant dans cette discussion, c'est que c'est aussi une discussion sur la manière dont se construit la recherche. Et c'est vrai que quand on se lance dans une thèse ou un projet au long cours, on demande aussi de nous positionner par rapport à des notions ou des concepts, ce fameux état de l'art et positionnement scientifique. Donc ça explique aussi...
C'est pas partout pareil.
Alors justement, ça explique aussi le succès... de cette notion de gentrification, c'est que c'est aussi, de la part de jeunes chercheurs, une obligation de se positionner par rapport à des termes qui existent déjà. Et comme vous le dites vous-même, au final, on sera assez peu à révolutionner notre propre discipline et à inventer des nouvelles théories, donc d'où ce besoin. Du coup, ma première question, c'est en grec, est-ce qu'il y a un terme pour parler de gentrification, parce que c'est des débats qu'il y a eu en France et des débats qu'il y a eu en Espagne aussi. Donc, qu'en est-il de la Grèce? Ça m'intéresserait.
Il y a deux termes.
Alors,
le premier, c'est gentrification avec une prononciation grecque.
Oui.
Le second est exevienismos, mais c'est...
Peut-être que vous pourriez nous dire un mot sur l'explication du terme. Ma deuxième question, c'est que parce que dans votre article, vous faites le parallèle entre le cheminement théorique et géographique de ségrégation et gentrification. La question que je me pose, c'est selon vous, est-ce qu'il y a des particularités de la gentrification qui explique justement son succès et son utilisation comme mot-valise? Parce que je pense en fait à un autre mot-valise aujourd'hui, qui est urbanisme néolibéral, qui est également mis un peu à toutes les sauces et qui suit un peu ce même cheminement, c'est-à-dire un terme qui au départ naît dans des contextes anglo-américains, que l'on retrouve aujourd'hui dans des contextes français, méditerranéens, maghrébins, etc., pour connaître des travaux de collègues de mots. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une particularité au fond du terme de gentrification, ou est-ce que c'est pas propre à n'importe quel concept de sciences sociales? Voilà.
Peut-être sur la première question, sur le terme en grec.
J'ai oublié de noter les questions. Ouais. Et à partir de deux, je commence à oublier. Mais disons, sur la première question, ma réponse est un peu la même. C'est-à-dire que les auteurs du livre disent très bien mes arguments, disons. Ils répondent un peu au contenu de mes arguments, mais ils négligent la fin de mon article où je dis que bien si on est sceptique, bien si on est réticent, on doit jouer avec la balle qu'on a. Donc, c'est un peu... on est contraint de le faire. Et avec la gentrification, c'est ce qui m'a poussé à réfléchir de cette manière. C'est que dans le cas grec, et vous avez de signes assez anémiques de gentrification qui portent surtout à des changements d'usage de sol et beaucoup moins à de changements de profil de quartier, etc. Mais en même temps que vous avez très peu de signes de processus de gentrification, vous avez une foule d'étudiants qui veut étudier la ségrégation, la gentrification à Athènes. Et ça, c'est un peu l'impact d'une vague globale qui s'intéresse à la gentrification et qui la voit partout. Dès qu'il y a un café qui change et qui devient café cappuccino nouveau type, gentrification. Et c'est ça et j'ai des étudiants qui ont fait des thèses pour la gentrification avec moi. C'est pas bon pour leur carrière avec le gentrification. Gentrification, voilà, gentrification.
Et le terme grec, du coup, qu'est-ce qui signifie en fait le terme grec?
Exevienismos. C'est le même terme qu'on emploie et quand on fait des huiles, des restes des huiles, raffinement. Voilà.
Raffinage.
Et donc c'est ambigu mais gentrification c'est ambigu aussi mais l'étudiante qui a fait une très bonne thèse avec moi, avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais c'est pas important, c'était un bon travail, et elle voulait obstinément employer le terme gentrification parce que c'est ça, c'est un processus global qui doit être labellé de cette manière.
Oui, moi je voudrais revenir un peu en arrière sur le succès du concept. Dans tes papiers, tu mets l'accent sur un facteur qui est interne au champ académique, qui est en gros l'impérialisme anglo-américain. Mais moi je me demande si on ne peut pas comprendre le terme, enfin le succès du terme sans sortir un petit peu du champ académique et considérer aussi le succès qu'il a pu avoir dans un monde, alors on pourrait dire militant ou progressiste ou critique, et l'écho qu'a eu les théories alors de géographie radicale, marxiste, etc., qui à mon avis explique aussi, et peut-être qui explique aussi pourquoi certaines personnes ont pu ou peuvent être froissées par ce que tu leur dis, c'est-à-dire que tu questionnes quand même un terme par lequel ils se posent ou ils se pensent aussi comme des alliés de mouvements sociaux, de contestation, etc., ce qui arrive quand même pas si souvent aujourd'hui. Donc ça, d'une part ça, et puis à l'extérieur du monde académique, quand même le rôle des médias. Alors, bon, gentrification en France, c'est un peu différent parce qu'on n'utilise pas, enfin les médias utilisent beaucoup le terme bobo, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Mais ça a été aussi un thème à travers lequel des journalistes ont pu s'emparer de sujets d'articles un petit peu faciles à traiter. Et je pense que ces facteurs-là externes au monde académique, forcément, ont un impact aussi dans le monde académique sur le succès
c'est
qu'il
un
a.
Cercle vicieux.
Voilà.
Oui. Tout à fait d'accord. Mais c'est un deux points que je.
Ah, d'accord.
Donc.
Oui, moi j'ai. En fait, du coup, je repars de l'article où vous faites un peu le même raisonnement sur la notion de ségrégation, en disant qu'elle était vraiment tributaire en fait, du contexte de ségrégation raciale institutionnalisée des métropoles états-uniennes, et que ça se voit notamment sur le fait que les indices de ségrégation, les indices de dissimilarité sont binaires et reproduisent en fait le clivage blanc-non-blanc, blanc-noir en fait, africain-américain original. Et donc du coup je vois à peu près, et donc autre aspect, le fait de connoter négativement la concentration spatiale des groupes dominés et de légitimer des politiques de déségrégation qui en fait parfois se dégradent en fait les conditions matérielles d'existence des populations discriminées et ségrégées en l'occurrence. Par contre pour la notion de gentrification, en fait, j'avais quand même un doute, ou en tout cas deux critiques qui étaient d'une part, est-ce qu'il n'y a pas une surestimation en fait, des écarts d'histoire urbaine et de structure de classe entre le monde anglo-états-unien et les autres pays où se produisent des phénomènes de transformation urbaine qui sont qualifiés de gentrification habituellement. Donc, par exemple, deuxième question dans la question, en fait, c'est aussi un concept qui a une histoire et qui a des significations successives. Donc, en gros, ma première critique, c'était une surestimation des différences d'histoire urbaine et d'histoire des rapports de classe dans ces différents pays. Et la deuxième critique, c'est est-ce que vous unifiez pas la gentrification qui est en fait une histoire sémantique? Par exemple, quand on passe du contexte londonien des années 60, et notamment de la notion de gentry, en fait, qui est une fraction de classe très particulière de la classe dominante, qui est quand même très indexée à l'histoire de l'élite britannique, de dire qu'en fait, quand on importe ce terme de gentry en fait, dans le contexte états-unien, on a déjà un écart sémantique et en termes de classe qui est déjà important. De la même manière, en fait, en France aujourd'hui, on désigne la gentrification plutôt des processus, pas n'importe quel rapport inégal d'appropriation de l'espace, c'est celui qui confronte à la fois d'une part les classes supérieures à capital culturel et d'autre part les classes populaires en fait, dans les centres-villes. Et du coup, là encore, la gentrification aux États-Unis, en fait, elle n'est pas forcément portée systématiquement par des groupes à capital culturel élevé. En tout cas, la notion de la structure de leur capital, capital économique, capital culturel, n'est pas nécessairement le même. Donc, voilà, c'était de vous dire en fait que quand même, je trouvais que si on se met à décrire un rapport d'appropriation inégale des centres-villes entre d'une part des classes supérieures et moyennes à capital culturel et de l'autre des classes populaires, définies comme ça, en fait, il y a quand même des convergences dans les histoires urbaines et dans l'histoire des rapports de classe entre les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, à certains égards, l'Allemagne et d'autres pays, en fait, ou même des pays du Sud qui voient, en fait, leur structure de classe s'aligner, en fait, par des mécanismes de marché, par des mécanismes politiques sur ces, voilà. Donc, c'était, voilà. Est-ce que vous surestimez pas les divergences entre histoire urbaine et histoire des structures de classe entre les deux pays que vous opposez ou les deux groupes de voilà? Et d'autre part, qu'est-ce que vous faites, en fait, du fait que ce concept a une histoire sémantique, n'est pas unifié en fait sur le plan de son histoire et de sa signification. Voilà. Oui.
Et donc, et sur le premier volet, et je dirais que je crois que je ne surestime pas les différentes histoires d'urbanisation, parce que je mets l'accent sur la grande trajectoire des villes industrielles du monde anglo-américain et l'évacuation des centres par les classes moyennes, par les élites, disons, de ces villes, et qui a produit des structures spatiales bien différentes par rapport à des villes de l'Europe continentale comme Paris ou Vienne, en évacuant le centre et en créant des conditions pour des changements un siècle plus tard qui ne sont pas les mêmes avec ce qui pouvait se passer en France. Et la surestimation donc des histoires différentes est encore comme la réponse pour la question qui suit est encore sujet à qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut analyser. Et si on veut analyser les processus de restructuration des centres-villes, etc., et les inégalités dans les centres-villes, et avoir un échantillon de 1000 et de 100 villes à travers le monde, oui, c'est surestimé. Non, c'est pas surestimé. Si on veut aller dans la matière d'une ville et des rapports politiques, etc., et comment la gentrification analyse d'un processus qui pourrait être utile pour l'action politique, là, ce n'est pas surestimé. Vous voyez, classe supérieure et moyenne, les acteurs de... il y a des similitudes, mais il y a aussi des grandes différences. Et, par exemple, le travail de Sylvie sur Boston et qui sont les gentrifieurs, etc. Et, il y a un certain type de diversité et, dont on ne trouve pas aux villes européennes, ou en tout cas on ne trouve pas au même niveau. Et je dirais que là c'est une diversité ce n'est pas une diversité qui tolère l'autre, mais c'est une diversité qui incorpore l'autre, parce que parmi les gentrifieurs, la diversité dans le sens d'orientation sexuelle, d'ethnicité ou autre chose, de passé récent, migrant, etc., fait partie des gentrifieurs. Donc là encore, pour l'analyse sociale et politique, et ça peut avoir une énorme différence si on compare ça avec Athènes ou Naples ou des villes dans un monde qui n'était pas récepteur et intégrateur d'une diversité qui s'exprime aussi au niveau des classes sociales. Maintenant devenu partie de classes, de catégories supérieures et gentrifiantes.
Oui. Il me semble quand même qu'autrefois, en sociologie, on aurait dit on étudie les changements de morphologie sociale ou de structure sociale urbaine. Mmh. D'accord ? Donc finalement, si on reste générique sur le terme, sur le concept par exemple de morphologie sociale, il est évident que on ne présume pas du résultat de l'analyse, c'est-à-dire qu'on peut aller voir des différenciations, y compris très fines, dans un processus de changement social urbain. Le problème de la gentrification, il a un succès académique et nos jeunes chercheurs, nos doctorants, ont tout intérêt à se faufiler là-dedans parce que sinon ils sont à côté des grands colloques, bon, ouais. Des grandes journées de internationales d'échange, etc. Mais je pense que c'est un autre problème. Je pense qu'on aurait tout intérêt, précisément, si on veut être innovateur et à un moment donné essayer de dominer un peu dans ce champ d'études, eh bien, pourquoi pas essayer de trouver, de forger des concepts qui sont qui pousse vers un certain type d'analyse qui peut être plus axé sur l'espace ou plus axé sur le rapport entre la forme matérielle de la ville et les résistances qu'elle oppose, parce que ça on a tendance à l'oublier, alors que l'école de géographie sociale française avec Roncaiolo, Le Petit, etc., bon, elle avait insisté sur cet aspect. Et je pense que, par exemple, on aurait quand même pas mal de surprises si on analysait vraiment le tissu urbain grec ou français ou même italien et justement ces processus de changement social dans l'occupation de l'espace urbain. Donc, je dirais que notre combat devrait être de chercher de nouveaux concepts, précisément, pour aller au-delà de ce concept bateau. Si ce n'est un concept écran, enfin, moi, j'ai jamais compris pourquoi là, en France on a cédé. Hein. Moi, j'ai résisté beaucoup au début. Alors, j'utilisais gentrification entre guillemets parce que comme ça, c'était connoté anglais et ou anglo-américain et je l'assumais pas. Voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne dit pas embourgeoisement?
Oui.
C'est un mot français. Il se décline, il se traduit bien en Europe, en tous les cas. Et on voit bien pourquoi on l'utilise pas finalement, parce que justement, c'est pas les bourgeois. Et si on disait un bourgeoisement, on serait à côté de la plaque, parce que on peut pas dire que les gays qui ont envahi le Marais à Paris sont tous des bourgeois, enfin, oui. Etc., etc. Donc, je pense que dans certains cas, on pourrait dire un bourgeoisement, dans d'autres cas, on pourrait dire autre chose. Donc, je me demande si finalement, on n'aurait pas intérêt à reprendre nos réflexions depuis le début, en se réinterrogeant sur les anciens concepts, en l'occurrence sociologiques, puisqu'il s'agit de Durkheim, hein, et puis être inventif sur le plan conceptuel. Enfin, ouais. Franchement, hein, suivant le chemin de Bourdieu, pourquoi pas. Il a beaucoup inventé, hein, au point de vue conceptuel.
Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Ça serait bien si on avait un concept qui avait du succès comme ça et qui serait beaucoup plus pertinent. Mais malheureusement, c'est pas... je ne trouve pas qu'il y a le champ libre pour ça. Et la gentrification a un peu empiégé les labels des processus de restructuration, pas seulement dans les centres urbains. Maintenant, il se prolonge, c'est comme un cancer, ça se prolonge partout. Et Donc, si on ne veut pas être... Parce qu'il y a des chercheurs qui ont dit « je ne l'emploie pas ». Ils sont marginalisés. Donc, je dirais que ceci est une, comment dire, guerre de maquis, un guérilla, comme ça, gentrification, lui-même naisse au lieu de guillemets. Et on montre qu'on n'est pas bien avec la... déjà dans le titre. C'est bon. S'ils sont jeunes, ils ont la vie devant eux, et ils peuvent inventer des concepts. S'ils arrivent à un bon concept, on va l'employer avec joie.
Merci.
Merci.